Bonsoir Nathalie Arthaud.
Bonsoir.
Bienvenue sur le plateau d'LCP. Alors vous menez la liste pour lutte ouvrière contre le grand capital, liste des travailleurs, interdiction des licenciements, augmentation des salaires, SMIC à 1 800 euros. Quand on regarde votre programme, ce qui frappe, c'est que c'est le même programme exactement que celui de la présidentielle. Vous étiez candidate. Pour quelle raison ?
C'est vrai. Parce que moi, je ne pense pas que ce soit les élections qui changeront le sort des travailleurs, mais qu'en revanche, ils doivent utiliser tous les moyens, effectivement, qui existent à leur disposition pour dire leurs objectifs, leurs revendications, les buts qu'il faut atteindre. Et ces buts, il faut les atteindre. Ils sont légitimes. Encore une fois, 1 800 euros net par mois pour effectivement les salaires, mais pour les pensions de retraite aussi, pour les personnes handicapées. Ça nous semble être une mesure évidente, mais cette mesure, il faudra l'imposer.
Alors, voilà, mais comment ? Parce que 1 800 euros, c'est déjà beaucoup plus que le SMIC en France.
Oui, il est à 1 200 euros net aujourd'hui.
Le salaire le plus bas d'Europe, c'est 286 euros en Bulgarie. On voit bien que l'Europe sociale, c'est un serpent de mer, c'est des petits pas. Pourquoi vous proposez des choses dont on sait que ça n'arrivera pas ? C'est ma question.
Ah ben vous êtes peut-être convaincu que cela n'arrivera pas, mais
27 pays qui décident à l'unanimité sur l'Europe sociale.
Non, mais très clairement,
nous disons
qu'il faut se battre, et on commence par se battre en France. Et moi, je suis désolée, mais quand je vois effectivement que les actionnaires arrivent à s'augmenter de 10%, de 20% d'année en année, qu'il y a plus de milliardaires en France, qu'ils trouvent toujours cet argent pour leur parachute doré, pour leur retraite chapeau, eh bien cela veut dire qu'en prenant sur les profits des grands groupes français qui prospèrent, PSA, c'est plus de 3 milliards de bénéfices cette année, Total, Sanofi,
les grands groupes,
eh bien il est possible, eh bien par un rapport de force, parce que précisément ceux qui aujourd'hui commandent, ceux qui imposent leurs intérêts, ce sont les grands actionnaires sur ces grands groupes. Et bien moi, je pense que les sont légitimes.
Vous allez quoi
sont légitimes.
Sur leur compte, saisir directement la rémunération.
Vous savez, s'il y a des grèves, s'il y a des mouvements sociaux puissants, je peux vous dire qu'effectivement, ils peuvent lâcher ce genre d'augmentation. Vous savez d'ailleurs qu'en 68, il y a eu une augmentation du SMIC quand même de 30%. De 30%, mais parce qu'il y avait effectivement des millions de femmes et d'hommes dans la rue qui revendiquaient leurs revendications légitimes. Et vous voyez cette discussion-là.
Ça m'amène aux Gilets jaunes, puisque vous parlez d'un rapport de force. Oui. Il y a un très grand mouvement social. Vous en avez rencontré des Gilets jaunes, et pourtant, ils n'ont pas été vers lutte ouvrière, ni même vers les partis politiques traditionnels. Comment vous avez pu passer, au fond, à côté d'un tel mouvement ?
Ah, mais c'est vous qui pensez que nous sommes passés à côté d'un tel mouvement. Moi, ce que j'observe,
c'est que... Moi, je ne les entends pas parler de lutte ouvrière ou de l'international,
ou
de la révolution.
Vous n'avez pas bien écouté les Gilets jaunes, parce que la première chose qu'ils ont dit, c'est qu'ils étaient contre la politique de Macron.
C'est vrai.
Donc s'il y a un parti qu'ils ont rejeté, une politique qu'ils ont rejetée, c'est la politique du gouvernement. C'est la politique que tous les gouvernements d'ailleurs qui se succèdent mènent aujourd'hui au pouvoir. C'est-à-dire dérouler le tapis rouge toujours pour les mêmes, une poignée de privilégiés dont on voit qu'ils sont richissimes d'ailleurs. Donc c'est cette politique-là que les Gilets jaunes ont rejetée. Quant à nous, notre voix dans les Gilets jaunes, mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'elle n'est pas entendue ?
Je vous pose la question.
Bien sûr que d'abord, nous sommes allés beaucoup discuter, nous sommes allés convaincre, en tout cas tenter de convaincre, que précisément, il ne s'agissait pas seulement de s'en prendre à la politique anti-ouvrière de Macron, mais qu'il fallait, si on voulait véritablement augmenter le pouvoir d'achat, c'est-à-dire nos salaires, nos pensions de retraite, eh bien il fallait peser sur ces grands groupes industriels et financiers qui ne jurent que par leurs profits. Et encore une fois, vous voyez ces élections et cette discussion qu'on a. Est-ce que c'est légitime de revendiquer 1 800 euros net pour le SMIC ?
Est-ce que c'est faisable ?
Eh bien, en tout cas, moi, justement, je veux que dans ces élections, cette voix-là se fasse entendre. Oui, c'est 1 000 fois légitime et oui, c'est 1 000 fois
légitime,
faisable.
Légitime, ça, j'en conviens.
Et c'est 1 000 fois faisable. Parce que, écoutez, vous savez, la première grande fortune du pays, c'est Bernard Arnault. Bernard Arnault, entre le mois de mars et le mois d'avril, sa fortune a augmenté de 10 milliards. 10 milliards. 10 milliards, vous vous rendez compte ? Alors là, on vit dans un autre monde, où effectivement les milliards,
On va revenir en Europe si vous le voulez.
Donc tout cet argent, il existe dans la société et il est fabriqué, il est produit, il est résultat effectivement du labeur collectif du monde du travail. Et bien donc, il faut effectivement dire, ça doit nous revenir en salaire et puis en emploi aussi. En emploi, parce que l'emploi, le problème du chômage, ça reste le fléau aujourd'hui dans cette
société. Quand vous voyez la disparité des protections sociales en Europe, on se pose la question au fond. pourquoi Lutte ouvrière veut rester dans l'Union européenne. C'est vrai que si vous voulez d'avancées sociales aussi importantes, les règles du jeu européennes ne concourent pas à votre projet. Pourquoi ne pas demander le Frexit ?
Non, mais attendez, d'abord, moi je rejette l'Union européenne en tant qu'institution qui ne fonctionne que pour la grande bourgeoisie, que pour le business, que pour les affaires. C'est ça cette construction européenne.
Depuis vous rejetez les institutions.
Mais en revanche,
donc vous voulez sortir de l'Union ?
Non, je veux sortir du capitalisme. Moi, je veux que les travailleurs imposent leur contrôle sur les grands groupes. Je pense qu'il ne pourra pas y avoir d'Europe sociale, mais parce qu'il ne peut pas y avoir de France sociale, parce qu'il ne peut pas y avoir de capitalisme social. Le capitalisme, c'est une société qui est fondée sur l'exploitation. Voilà, sur le fait que ceux qui doivent, ceux qui n'ont pas de capitaux, ils doivent aller vendre leur force de travail, et les autres, effectivement, vivent
J'entends.
Du travail. Donc, c'est le programme, notre programme pour les travailleurs, c'est effectivement qu'ils se défendent et qu'ils remettent en cause tout cet ordre social. Mais sûrement pas.
J'entends que vous ne voulez pas sortir de l'Union européenne. Qu'est-ce qui trouve grâce à vos yeux dans l'Union européenne?
Sûrement pas ces institutions.
Qu'est-ce qui va bien à vos yeux?
Ce qui va dans le sens du progrès, c'est cette idée de dire qu'il faut effectivement faire sauter toutes ces frontières qui sont devenues complètement dépassées. Dépassé parce que les liens économiques, parce que les liens humains, culturels, toute l'histoire.
Donc, c'est la libre circulation des travailleurs, ça vous...
Pardon ?
La libre circulation des travailleurs, des citoyens, ça c'est quelque chose que vous revendiquez et donc que vous partagez avec le projet européen.
C'est même pas le projet européen, vous savez, parce qu'en réalité, ils sont en train d'en rajouter des frontières, y compris au sein même de l'Europe. Donc même là-dessus, sur la libre circulation et la libre installation des femmes et des hommes, moi, je ne leur fais pas confiance. Et la réalité, c'est qu'ils ont transformé cette Europe en forteresse contre, effectivement, tous ceux qui sont chassés par la misère ou par les guerres. Donc, je revendique la liberté de circulation et d'installation comme un droit vital, essentiel pour le monde du travail.
Vous
parce
souhaitez...
que, voilà, on est, quand on est travailleur, on est bien obligé d'aller là où il y a du boulot.
Vous souhaitez des États-Unis socialistes d'Europe. Dans quelles frontières? Vous parlez d'une fédération mondiale des peuples.
Alors,
de quoi s'agit-il?
États-Unis socialistes d'Europe.
C'est ce que j'ai dit.
Ce qui veut dire, oui, non mais ce qui veut dire concrètement, c'est que nous pensons qu'il faut que les travailleurs prennent le pouvoir sur cette société. Voilà. Et nous pensons que les travailleurs font tout tourner aujourd'hui. Aujourd'hui, ils font tourner pour une poignée de grands privilégiés, de grands actionnaires, qui d'ailleurs transforment l'économie en salle de casino. Et nous pensons que demain, ils peuvent le faire. Ils
quand
peuvent
vous voyez,
faire tourner
par exemple...
cette économie en la dirigeant. Et en la dirigeant, ça veut dire effectivement en organisant collectivement les choses, en expropriant la grande bourgeoisie des moyens de production de ces multinationales, de ces grands groupes financiers, et en dirigeant.
Donc en expropriant, ça veut dire en prenant directement les moyens.
En collectivisant, oui, nous
très
sommes
bien.
Pour collectiviser.
Alors, vous êtes pour la nationalisation d'Ascoval, j'imagine, parce que, regardez le gouvernement, oui. Ça c'est l'actualité, Ascoval, la scierie de Saint-Saulve, dans le nord, 270 salariés, le repreneur britannique a fait faillite, et le gouvernement débloque 15 millions d'euros. Vous dites quoi ? Vous saluez, c'est mieux que rien ?
Non, sûrement pas. Moi, ce que je dis, c'est que justement, tous ces gouvernements, depuis des décennies, ils déroulent le tapis rouge à ces prétendus investisseurs qui n'ont pas envie du tout d'investir. Ce sont des aventuriers de la finance. Les entreprises, ils les achètent, ils les vendent. Enfin, et les travailleurs là-dedans...
Mais c'est un industriel. Hein.
Et même un industriel qui dépend d'une holding financière en réalité. Et c'est des margoulins. Alors, ils n'en ont que faire de l'entreprise, de ce qu'elle produit, de son utilité. Alors, les travailleurs, on n'en parle même pas, hein, parce que alors, les travailleurs, de toute façon, ils sont juste bons à être exploités, à trimer et à se taire. Mais même les entreprises. Et au bout du compte, ce qu'on constate... compris sur Ascoval à Saint-Saulve, c'est que ce sont les travailleurs qui, eux, tiennent aux entreprises. Finalement, ce sont eux les vrais investisseurs dans notre société parce que eux, justement, ils y passent leur vie et ils y tiennent parce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, de leurs compétences, de leur énergie. D'ailleurs, toute leur vie en dépend. Donc, eux, ils y tiennent. Donc, précisément, nous disons, oui, les travailleurs, ils sont légitimes de diriger tous ces grands groupes.
Et là, on vous entend parler
l'économie des travailleurs, pas à cette économie
Nathalie
casino.
Arthaud, la France insoumise, elle en parle aussi des travailleurs dans cette campagne. Elle défend une réorientation de l'Europe vers plus de justice sociale. On entend Manon Aubry énormément nous parler de lutte contre l'évasion fiscale. Ça touche également les grands capitalistes que vous dénoncez, l'évasion fiscale. Vous nous parliez de Bernard Arnault, LVMH, il y a un instant. Vous n'avez rien en commun avec eux ?
Moi, je pense que se placer dans le camp des travailleurs, ça commence par dire que la moindre avancée que l'on obtiendra, il faudra aller l'arracher. L'arracher au travers d'un rapport de force.
Vous ne répondez pas sur la France insoumise.
Est-ce que la France insoumise dit cela ? Jamais. La France insoumise nous explique qu'il suffira de mettre le bulletin dans l'urne qui va bien pour que cela survienne. Ce n'est pas vrai. Tout ça, ce sont des mensonges, des illusions. Mais c'est
générale,
le rapport de force. Écoutez, même les gilets jaunes, puisqu'on a parlé des gilets jaunes. Oui, moi, je m'inspire de ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. C'est la contestation sociale qui a tordu le bras à Macron. Mais c'est rien d'autre. Donc, la première des choses, c'est ça. C'est quand on se place du point de vue des travailleurs, c'est de ne pas leur raconter de bobards et leur dire que c'est une question de rapport de force. Et la deuxième chose, c'est pas seulement un référendum anti-Macron. Encore une fois, c'est contester la classe capitaliste, l'exploitation, cet ordre social.
Nathalie Arthaud, c'est la dernière question, le temps presse. Vous êtes crédité de 0,5 à 1% des intentions de vote dans les sondages. Vous risquez de ne pas avoir d'élu, mais vous risquez aussi de ne pas pouvoir rembourser vos frais de campagne. J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, ou il y en a beaucoup parce qu'il y a des Français qui se posent la question. Vous êtes systématiquement candidate, vous avez des financements, ce sont les cotisations à lutte ouvrière. Comment ça fonctionne ?
Ah mais bien sûr, d'ailleurs, le journal officiel publie nos comptes. Nous sommes pour la transparence des comptes. Nous l'appliquons à nous-mêmes, nous aimerions appliqué à ces grands groupes, on verrait d'où vient leur argent. Et encore une fois, c'est un combat que nous menons. C'est un combat. Et moi, mes convictions et ce combat, il n'est pas indexé sur les sondages ou
vous
sur les scores électoraux.
Vous retrouvez en 2022 ?
Voilà, il est
sur la ligne de départ ?
Dans la rue d'abord, vous allez me retrouver. Dans la rue, dans les grèves. Et à chaque fois qu'il y aura des combats politiques, bien sûr, je porterai les intérêts et la voix des travailleurs.
Merci beaucoup, Nathalie Arthaud, d'être venue sur le plateau d'LCP. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Merci à l'équipe CVR, à la rédaction, à la régie. Très belle soirée sur LCP et très bon week-end.